Chapitre 1. Théoricien ou praticien? Ils disent, mais ne le font pas. Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent. Mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Mettre en pratique, voilà la pierre de touche de tout enseignement. L'homme est capable de formuler les pensées les plus élevées, et plus encore, de répéter ce que le Tout-Puissant a prononcé. Cependant, sans la vie de l'Esprit, la mise en œuvre ne suit pas et se transforme rapidement en une médiocre caricature. Combien de fois entendons-nous cette plainte? Ce sont de beaux discours, mais il n'y a rien derrière. Ceux qui l'expriment ne devraient pas oublier qu'ils citent le Christ en personne. Dans un passage similaire, nous lisons « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils, c'est-à-dire les disciples, comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain, du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16, versets 11 à 12. Faut-il donc se garder de cet enseignement ou y obéir? Il faut discerner. Ces érudits ont ficelé des multitudes de prescriptions dont un grand nombre de leurs propres crus, le tout mélangé aux Écritures. Ils prêchent la loi de Moïse en y ajoutant les leurs. De plus, quand ces deux sources d'autorité entrent en conflit, Jésus démontre que les pharisiens donnent la priorité à leurs propres coutumes, pensées et rites. Ils désobéissent ainsi à Dieu au profit de pratiques religieuses. Le culte que ces gens me rendent est sans valeur, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines. Marc 7, verset 7. Se garder des concepts humains tout en obéissant à la parole est le premier pas pour différencier le religieux du spirituel. Qu'en est-il des disciples de Christ? Jésus devra patiemment les former pour harmoniser leur dire et leur faire. Observons-les, par exemple, face à la mort. Le premier épisode se situe juste avant que Jésus ressuscite son ami Lazare. Jésus leur dit alors clairement, « Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, parce qu'ainsi vous croirez en moi. Mais allons près de lui. » Alors Thomas, surnommé le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre maître. » Jean 11, versets 14 à 16. Le second épisode se situe au moment de l'arrestation de Jésus. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Matthieu 26, verset 56. Dans le premier passage, nous ressentons une prise de position juvénile due à un phénomène de groupe. Thomas, ne saisissant pas la pensée de Jésus, propose une expérience mystique qui ressemble à un jeu. Avant leur temps, les disciples semblent avoir confondu virtuel et réel. Dans le second, ils sont confrontés à l'expérience effrayante de la réalité. La nuit, le froid et la menace présente leur donnent la peur au ventre. Il n'est plus question de mourir avec leur maître, ni même d'affronter une arrestation. Leur faiblesse se révèle. C'est la fuite. Jésus les avait pourtant avertis. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Matthieu 26, verset 41. Demeurer en lui et baigner nos vies dans la prière est indispensable pour que nos paroles et nos actes soient en harmonie. Paul, qui, dans ses voyages missionnaires, a déjà frôlé la mort à maintes reprises, écrit « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. » 2 Corinthiens 8, verset 12. Que de promesses mirobolantes chez tant de disciples aujourd'hui. Mais un homme ou une femme qui tient parole, que c'est précieux. Beaucoup de gens se vantent de leur bonté, mais qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr? Proverbe 20, verset 6. Les non-chrétiens qui nous entourent ont soif d'un Dieu réel. Le mysticisme chrétien ne fait pas envie. Les envolées semblables à celles de Thomas font partie d'un monde virtuel. Elles procurent parfois de merveilleux sentiments, mais n'ont aucune force. Notre foi réelle va se manifester au travers de la gestion de notre temps, de nos partages à table, au volant de notre véhicule ou dans nos relations avec nos collègues et nos amis. La droiture financière est aussi l'un des domaines fondamentaux qui marque la différence entre le théoricien et le praticien. La parole sans la pratique scandalise et décourage. Aujourd'hui, de multiples mouvements, petits et grands, ont le même travers que les pharisiens. La vérité est mélangée à des préceptes humains et parfois démoniaques. Comment donc discerner? Les meilleurs dogmes ont une faiblesse de taille. Ils sont faciles à énoncer, mais difficiles à appliquer. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de scandales éclaboussent leurs dirigeants. Ils prêchent une éthique élevée qu'ils transgressent en secret. Ils prônent la pauvreté et sont incroyablement riches. Ils feignent d'être cool, mais dirigent d'une main de fer. Ils parlent de collégialité, mais imposent une dictature sans partage. Ils plaident le respect, mais piétinent ceux qui leur résistent. Ils prétendent être conciliants, mais transpirent l'intolérance. Ils disent et ne font pas. La médiacratie. Cet esprit religieux se retrouve aussi là où nous ne l'attendons pas, dans les médias. Ces derniers sont devenus l'une des principales religions mondiales, avec ses rites quotidiens, ses grands messes, son vénéré audimat, ses collectes de fonds et ses grandes doctrines rabâchées et scandées sur tous les tons et sous toutes les formes. Son financement est, entre autres solutions, assuré par des redevances obligatoires. La médiacratie détermine ce que vous devez savoir, penser, décider, approuver et désapprouver. Elle vous ignore, vous élève ou vous abaisse selon son bon plaisir. Elle vous dit ce que vous devez manger et boire. Elle vous prescrit ses shampoings et ses poudres à lessive et vous donne la marque des chaussures et des vêtements que vous devez porter. Elle vous inculque ses analyses sur tous les sujets possibles et imaginables, sans aucun complexe et avec une répétitivité assommante. Elle se concerte, s'accorde des interviews, se congratule et s'offre des prix en son propre sein. Mais pratique-t-elle ce qu'elle enseigne? La violence à l'école est sur toutes les lèvres, et la violence à l'écran sur toutes les chaînes. La vitesse au volant est incriminée comme meurtrière au journal télévisé. Mais le héros, dans le film qui suit, roule à tombeau ouvert en pleine ville. Boulimie et excédent de poids semblent combattus, mais l'avalanche publicitaire de petits encas bourrés de calories obéit à un dogme supérieur, les impératifs commerciaux. L'horreur des marées noires souillant les plages et autres sites précieux est dénoncée, mais les marées d'émissions polluées et de paroles obscènes s'échappent des studios et atteignent des millions de foyers sans éveiller la moindre autocritique. Au besoin, on vous indique l'âge à partir duquel vous devez être en mesure de supporter la pollution en question. On s'indigne du dernier crime, mais le film de minuit vous donne le choix entre un viol collectif, un meurtre passionnel ou une véritable boucherie humaine. Le terrorisme est condamné en première lecture, puis les révisionnistes entrent en scène et culpabilisent adroitement les victimes. Les maisons pour personnes âgées sont visitées pour en débusquer les lacunes relationnelles ou culinaires, mais l'euthanasie active est habilement soutenue. Les drogues prétendues douces sont désavouées, reportage à l'appui, puis banalisées le week-end suivant dans un débat prétendu impartial. On rejette le capitalisme sauvage tout en nous arrosant de jeux d'argent faciles, de loterie et de tiercés à gogo. La presse tire à boulets rouges sur une personnalité soupçonnée d'immoralité, mais les pages suivantes offrent un choix de débauche sans limite. Quant aux annonces publicitaires des salles obscures, elles rivalisent de scénarios malsains justifiés, admirés ou adulés. La démocratie est sur toutes les lèvres, mais un harcèlement intellectuel ininterrompu en faveur d'une pensée unique et journalistiquement correcte nous est asséné jour et nuit. La tolérance est servie à toutes les sauces, pour tout ce qui déstabilise, choque et désécurise la société. Mais la moquerie, les attaques en règle et la mesquinerie accueillent ce qui en a fait la force. Ils disent et ne font pas. Tout est-il condamnable pour autant? Absolument pas. Les émissions de haute qualité existent et la matière pour les produire est surabondante. Il se trouve également des journalistes intègres qui se différencient du médiatiquement correct, en étant en quelque sorte des prophètes, des sentinelles ou des explorateurs d'avant-garde. La fenêtre sur notre planète qu'offrent les médias répond à un besoin fondamental pour l'être humain, et nous vivons à une époque très privilégiée. Le besoin d'une complète réforme est aussi nécessaire que possible. Je suis de ceux qui rêvent de l'avoir un jour. Qu'en est-il des chrétiens? Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. La foi sans les œuvres est morte. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Jacques 1, 22, 2, 26, Matthieu 7, 21. Selon Jésus, il y a ceux qui écoutent sa parole et l'appellent Seigneur, et ceux qui font ces choses et, de plus, lui obéissent. Il dit au premier, « Cessez de vous illusionner. Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Matthieu 5, verset 20. Les rencontres pour adorer Dieu, écouter sa parole et manifester notre communion fraternelle ont bien évidemment une valeur intrinsèque, mais la mise en pratique se fait essentiellement hors de nos murs. Notre capacité de comprendre le plan de Dieu pour nos vies est proportionnelle à notre volonté d'obéir. Si dans la semaine nous avons entre 1 à 10 heures de réunion, ces instants doivent être perçus comme une école, un laboratoire dans lequel nous nous formons. Les 158 heures restantes révèlent si nous sommes pratiquants ou non. De nombreux croyants confondent la simple écoute avec la pratique. Autrement dit, ils sont persuadés que leur présence à des réunions, l'écoute d'un message ou la participation à une étude biblique consiste à faire la volonté de Dieu. À part cela, ils pourraient nourrir de mauvaises pensées, critiquer, se disputer, mentir, laisser leurs factures impayées et trahir leurs engagements. Cette mentalité est si fortement implantée qu'un chrétien pratiquant, dans la définition courante, n'est pas du tout celui qui pratique la volonté de Dieu, mais celui qui fréquente une église. Lorsqu'un chrétien pense que le fait d'aller à 2 ou 3 réunions par semaine, c'est accomplir la volonté de Dieu, il inverse les choses. Il devrait au contraire considérer qu'il progresse dans la volonté de Dieu parce qu'il reçoit dans ses rassemblements les outils et la force de la pratiquer. Quand je suis en communauté, je me nourris de Dieu. Lorsque je me lève et sors, je nourris la société de sa part. Assister à des centaines de réunions n'a aucune valeur si la pratique ne suit pas. Des multitudes d'êtres humains accomplissent des rites religieux, de jour comme de nuit, dans l'espoir que cela leur soit salutaire. Cependant, ce n'est pas le rite qui touche Dieu, mais l'obéissance. L'apôtre Paul, s'adressant à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dit « Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. » En Corinthiens 6, versets 9 à 10. Il en avertit ses chrétiens aimés, charismatiques, présents aux réunions et bénéficiant de son ministère que ceux d'entre eux qui, malgré cela, persévéreront dans la malhonnêteté, sans parler de ceux qui volent ou vivent dans l'adultère, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Prêcher le contraire n'est en aucun cas de l'amour. Cependant, n'avons-nous pas tous besoin de la grâce de Dieu et de son pardon? Certainement. Le point soulevé par Christ et repris par Paul ne vise pas celui qui tend à la sainteté et s'afflige de ses fautes. S'il revient 70 fois cette fois, il lui sera pardonné. Cela se rapporte à celui qui, tout en invoquant le Seigneur, demeure volontairement dans le péché, tout comme à celui qui croit que le dire ou la simple écoute remplace le faire. Si nous avons trompé quelqu'un, nous pouvons nous en repentir après 3 minutes, 3 jours, 3 ans, ou jamais. C'est la même faute, mais le laps de temps durant lequel nous demeurons dans le mensonge révèle la dureté de notre cœur. Jésus attire l'attention sur une personne exerçant une influence néfaste dans l'église de Thyatire, en disant « Je lui ai laissé du temps pour changer de comportement, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. » Apocalypse 2, verset 21. Suivent de sérieux avertissements et cette conclusion « Je paierai chacun de vous selon ce qu'il aura fait. » Le Seigneur est patient, lent à la colère. Il donne du temps. Sa grâce est une constante réalité, mais nul ne peut en abuser. Dans l'histoire de l'Église naissante, nous voyons Ananias et Saphira qui décident de s'installer dans le mensonge. Ils sont prêts pour jouir d'une réputation de généreux donateurs à fréquenter l'Église en demeurant dans la malhonnêteté, conformément au livre des Actes, chapitre 5, verset 4. Celui qui vit ainsi, quelle que soit sa position dans l'Église, n'héritera pas du royaume de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, conformément à l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Jésus exhorte avec force l'Église d'Éphèse. « Pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Apocalypse 2, verset 5. Le contraste entre la parole prêchée et sa mise en pratique peut devenir humiliant, voire scandaleux. Ses avertissements à son Église sont à la hauteur de son amour pour elle. L'homme spirituel. La vie de Jésus décrite dans l'Évangile nous dresse le tableau de l'homme spirituel par excellence. Ses temps de ressourcement sont indispensables. C'est là qu'il reçoit les grandes lignes de son message et de son action. La pratique qui en découle est tout aussi essentielle. C'est là que les valeurs du royaume éclatent au grand jour. Il aime les malades et les guérit. Il croit à la valeur des enfants et leur accorde du temps. Il a pitié de la foule affamée et la nourrit. Il enseigne la confiance et la démontre au sein de la tempête. Il prêche la justice et il l'applique. Il enseigne la bonté et multiplie les actes de bienveillance. Il prêche la fidélité et demeure fidèle dans l'opposition et la souffrance. On l'appelle l'ami des pécheurs. Il visite, observe, écoute, conseille, instruit, reprend, délivre selon les besoins. Il se dit fils de l'homme et marche aux côtés de ses disciples, passe d'une ville à l'autre, traverse les lacs, gravit les monts, mange chez l'habitant. Il prêche l'amour et donne sa vie pour l'humanité. Il annonce sa mort et sa résurrection. Il meurt et ressuscite. Il promet le Saint-Esprit et il l'envoie. Pour Jésus, la pratique est si fondamentale que lorsqu'on lui signale que sa mère et ses frères le cherchent, il répond « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Quand une femme lui rappelle sa tendre enfance et le bonheur pour Marie, sa mère, de l'avoir allaitée, il dit encore « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Luc 8, verset 21, 11, verset 27. Jésus méprise-t-il sa famille? Bien sûr que non. Ne reconnaît-il pas le bonheur pour sa maman de l'avoir allaitée? Certainement. Mais pratiquer la parole est plus vital. C'est cela qui nous permet d'entrer dans sa famille intime, bonheur plus grand encore que l'allaitement. Dieu est ainsi venu vivre devant nos yeux. Il nous apprend que l'homme spirituel vit ce qu'il dit. L'inspiration accompagne ses paroles et l'onction repose sur ses actes. Paul écrit aux Philippiens « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Philippiens 4, verset 9. Quelle est la différence entre Paul, l'ancien pharisien, et Paul, l'apôtre? La mise en pratique. Quelqu'un a résumé ainsi l'influence du chrétien. S'il se contente de dire la parole, il verra un résultat que nous pourrions estimer à 1. S'il la partage et la met en pratique, il verra un résultat de 5. S'il la proclame, la met en pratique et la voit confirmée par Dieu, il verra un résultat de 25. Les pharisiens pouvaient chaque jour davantage constater cette différence entre leur ministère et celui de Christ. Même les ignorants ressentaient la bouffée d'oxygène que la présence de Jésus leur apportait. Aujourd'hui, comme hier, la multitude souffre de l'oppression de régimes politiques, médiatiques et religieux remplis de contre-témoignages. Ils soupirent, sans le savoir, après une authentique vie de fils et de filles de Dieu.